RFI, grand reportage.
L'Éthiopie est un pays culturellement très divers, mais dans les universités, les équipes de direction sont au contraire très homogènes en termes ethniques. Donc les étudiants d'autres communautés peuvent être réticents à présenter leurs doléances.
12 morts, 35 000 étudiants qui fuient. Les universités publiques éthiopiennes sont sous haute tension depuis plusieurs mois. À l'approche des élections régionales et législatives au mois d'août, la situation pourrait encore se tendre, car c'est en premier lieu la compétition politique qui pénètre les campus d'Éthiopie. La moitié a été fermée pendant un temps. Pour faire face à cette situation, des mesures répressives ont été prises. Plusieurs centaines de personnes, étudiants, enseignants, personnels administratifs ont été suspendus. D'autres initiatives sont aussi mises en place pour travailler le phénomène à la racine et tenter de l'endiguer. Les universités éthiopiennes, minées par les tensions ethniques, c'est un grand reportage de Vincent Dublange.
À l'heure de l'appel à la prière, Ahmed nous reçoit dans la maison familiale, à l'abri des regards. En deux jours, c'est le seul étudiant de la ville de Dredawa qui acceptera de nous parler. Mi-novembre, un élève Amara, ou perçu comme tel, est défenestré sur le campus. Le jeune Somali se souvient.
L'université a été fermée pendant deux ou trois semaines, puis on a repris les cours. Tout était normal, mais deux ou trois jours après la reprise, les conflits ont recommencé. Et là, c'est un Oromo qui a été jeté du quatrième étage et qui est mort. Quand les élèves de la communauté Oromo ont entendu ça, ils ont commencé les affrontements. Ils ont poignardé un élève à Mara. Il était dans le coma, je ne sais pas s'il est mort ou pas.
Aucun officiel de l'université ou du ministère n'a répondu à nos demandes d'information. Le campus a été fermé pendant un mois à Dredawa. Depuis fin janvier, les cours reprennent peu à peu, mais début février, tout était encore loin du retour à la normale.
Dans ma classe, aucun Amara n'est rentré pour l'instant. Seuls les Oromo et les Somalis vont en cours.
Ahmed dit avoir des amis au sein de chaque groupe, mais il constate quand même un repli sur soi communautaire sur le campus de Dredawa. L'université est à l'image de la ville, cosmopolite mais rongée par les tensions interethniques. À plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest, la ville d'Ambo. Elle fut théâtre des premières manifestations anti-régime qui conduisaient en 2018 à la démission du Premier ministre Hailemariam Desalegn, puis à l'arrivée d'Abiy Ahmed. Argash Negai a 22 ans, il est en troisième année de sciences politiques. Le jeune homme est originaire de l'État régional des Nations, Nationalités et Peuples du Sud. Personne n'est décédé dans son université depuis novembre, mais des violences ont eu lieu.
Un de mes amis a été frappé alors qu'il n'avait rien à voir avec le conflit. Ils l'ont vu marcher seul et ils se sont dit qu'il était d'une autre communauté. Alors ils l'ont attaqué et je les ai vus le frapper.
La question de l'appartenance ethnique est importante à l'université d'Ambo, explique Arsema Nouaï, étudiante de 19 ans en deuxième année de sciences politiques et relations internationales.
Quand tu débarques à la fac, tout le monde se demande qui c'est celle-là. En tant que personne originaire d'Addis Abeba, une ville multiculturelle, cela ne me crée pas de problème. Mais quand même, chacun préfère savoir d'où tu viens. Dans la vie courante, cela ne change pas grand-chose. Tout le monde coexiste. Mais en période de tension, tes amis de la veille peuvent devenir tes ennemis.
En 1991, la coalition de groupes armés rebelles triomphe de la dictature militaro-marxiste du comité, le Derg, en Amharique. Le front tigréen en est le fer de lance. Ses fondateurs voient dans une solution fédérale ethnique la panacée pour tenir ensemble ce pays étendu, montagneux, habité par des dizaines de peuples différents. Depuis, la compétition politique, l'accès aux ressources se déroule à travers la mobilisation de l'ethnie, définie notamment par la langue. Avant la fin des années 90, il n'y avait qu'une seule université, celle d'Addis Abeba. Depuis, le gouvernement fédéral s'est lancé dans une frénésie de construction de campus et de transformation d'écoles existantes en universités. Aujourd'hui, il y en a 45, un chiffre qui cache de grandes disparités de moyens. Pour les remplir, un système de sélection des étudiants en fonction de leurs résultats, à l'équivalent éthiopien du baccalauréat, de leurs trois vœux et d'une loterie. Mesfin Manazé est doctorant, chargé de cours pendant plusieurs années à Dredawa. Il a participé à l'affectation des élèves du supérieur.
À cause de la situation politique, les étudiants ont commencé à se révolter dans leurs universités. Le gouvernement s'est donc dit, si nous plaçons des étudiants d'Ambo à l'université de Gondar, alors ces étudiants Oromo qui vont en région Amhara ne connaîtront personne, n'auront pas de soutien locaux et se tiendront tranquilles. Et c'était le cas.
Dans le même temps, les étudiants obtenaient souvent une place dans une faculté qu'ils n'avaient pas choisie. Mesfin, originaire d'Addis Ababa, se souvient de son placement à l'école des professeurs de Dilla dans le sud.
J'ai eu des résultats plutôt bons au baccalauréat. J'ai choisi l'université d'Addis Abeba en première option, puis celle de Gondar, Baerdar, Jima. Je ne savais même pas que l'école de l'enseignement de Dilla existait, mais j'ai été placé là malheureusement. J'étais scolarisé à l'école secondaire Addis Ketema, à Addis Abeba. Dans mon école, tous les meilleurs avaient choisi Addis. Aucun ne l'a eu et je ne sais pas pourquoi. J'étais totalement perdu quand je suis arrivé à Dilla. Je voulais faire médecine, j'avais de bonnes notes au lycée et je pensais donc que c'était joué. À l'époque, Dilla n'était pas une université mais une école supérieure pour l'éducation et les sciences de santé. Il y avait donc seulement 8 options pour la formation des professeurs et un parcours sur la santé appelé agent de santé. Donc j'étais complètement perdu. Certains étudiants de bonne famille ont vite quitté les lieux pour s'inscrire à l'université d'Addis Abeba et suivre des études d'ingénieur. Mais je venais d'une famille pauvre, donc je suis resté à Dilla et j'ai fait mathématiques.
Cette expérience déracine à la fois sur le plan familial, culturel, mais aussi sur le strict plan universitaire, puisque l'étudiant n'a parfois même pas le choix de sa discipline. Pendant longtemps, l'Éthiopie a poussé des cohortes de jeunes vers les métiers de l'ingénierie afin de fournir la main-d'œuvre pour sa politique de développement industriel et des infrastructures. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage vers les sciences sociales. Le plus difficile est donc pour les étudiants de première année. Ils sont jeunes et peuvent vite être perdus, comme Mesfin le fut en son temps. À l'université d'Ambo, Wenraya Abala, en troisième année de littérature et d'anglais, est chargée justement d'encadrer ces jeunes pour que les premiers pas se déroulent du mieux possible. Elle-même vient de Gambela, près de la frontière sud-soudanaise. Wenraya parle un parfait amharic, son intégration en a été facilitée. Alors, faut-il remettre en cause le système de répartition des étudiants loin de leur région d'origine ? Ce système facilite-t-il la survenance de conflits quand la situation politique se tend ? Réponse sans équivoque de la jeune de 20 ans, déjà très mature.
De mon point de vue, la répartition des étudiants dans d'autres régions que la leur est une bonne chose. Le conflit, cela arrive partout, tu ne peux l'éviter, cela peut arriver entre frères, en famille. Donc je suis heureuse d'être ici à Ambo, car j'apprends des choses que je ne connaissais pas. Il y a des opportunités à saisir, même dans un moment de crise. Certains s'opposent à ce système d'affectation des étudiants, mais je pense que c'est un bon système.
À ses côtés, Aregaï Negash, celui qui a vu son ami se faire attaquer quelques semaines auparavant, est entièrement d'accord avec sa camarade.
Quand un groupe ethnique déterminé vit dans un territoire et n'en sort pas, cela renforce son sentiment de possession. Mais si l'on encourage les étudiants à aller dans une autre région, alors ils vont découvrir d'autres cultures et ça va créer un échange avec les habitants.
Le système, pourtant, a commencé à être remis en cause. Désormais, les jeunes sont davantage envoyés dans leur propre région. En premier lieu parce qu'il y a plus d'universités aujourd'hui qu'il y a 5 ans, peut-être également sous l'effet d'un changement politique. Conséquence, une concentration plus importante d'étudiants locaux et un sentiment exacerbé d'appartenance, de possession, comme le dit Aregaï. Et cela se retrouve également dans le leadership, explique Mesfin Manazé, le chargé de cours qui prépare aussi une thèse de doctorat sur la gestion de la diversité dans les universités.
L'Éthiopie est un pays culturellement très divers, mais dans les universités, les équipes de direction sont au contraire très homogènes en termes ethniques. Donc les étudiants d'autres communautés peuvent être réticents à présenter leurs doléances, par exemple. Si un conflit éclate entre Amhara et Oromo dans une université de la région Amhara, où la direction est principalement originaire de cette région, les étudiants Oromo, s'ils ont des récriminations, ne feront pas confiance au président de l'université. Alors que s'il était Oromo ou Somali, en tout cas non Amhara, les étudiants pourraient se sentir davantage en confiance.
« En ce samedi matin, pas de classe à l'université d'Ambo, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. Mais certains étudiants ont quand même cours, en quelque sorte. Messine Manazé est le professeur du jour. Face à une vingtaine de jeunes engagés dans le Forum pour la paix du campus d'Ambo, il donne un cours magistral sur les conflits en général. Puis Messine ouvre la discussion. Par groupe de 5 ou 6, les étudiants travaillent sur les causes des conflits spécifiques aux universités. Des causes qu'ils notent sur une grande feuille, une feuille qu'ils affichent ensuite au mur pour expliquer le résultat de leurs réflexions à leurs camarades. Aregaï, que l'on a déjà croisé tout à l'heure, est au tableau. Il évoque les injustices de l'histoire comme explication. Messine lui demande de développer.
Parfois, c'est important d'élaborer un peu plus lorsque l'on veut résoudre les problèmes. Soyez un peu plus précis sur ce que vous appelez injustice de l'histoire.
Par ce terme, on fait référence, comme chacun le sait, à des questions qui sont débattues depuis longtemps et qui prennent leur source à la formation de l'Éthiopie moderne. Pendant longtemps, un groupe ethnique a dominé les autres. En réaction, un autre groupe, notamment, a commencé à se définir comme victime et à dire « Mon identité a été dominée, cette ethnie-là a maltraité la mienne pendant si longtemps ». Alors ils ont commencé à se dire qu'ils allaient rendre l'appareil aux autres, c'est ce qu'on peut définir comme la racine du problème.
L'étudiant de troisième année de sciences politiques fait ici référence à la domination politique des communautés du Nord des hauts plateaux de l'Éthiopie actuelle, et notamment Amara. Depuis la fin du XIXe siècle, le cœur du pouvoir a été exercé par la noblesse d'origine Amara, même si les mariages interethniques et la stratégie de conquête vers le sud ont aussi fait de la place aux Tigréens et, dans une moindre mesure, aux Oromos et à d'autres populations. Le sentiment d'une domination Amara jusqu'à la fin de la dictature de Mengistu n'en reste pas moins essentiel pour appréhender la réalité politique contemporaine de l'Éthiopie. Le nouveau régime est, lui, généralement présenté comme dominé par les Tigréens. Les Oromos, nation la plus peuplée du pays, se vivent donc comme marginalisés. Ce sentiment est utilisé et amplifié par les partis et mouvements politiques nationalistes Oromos. Et ce, encore plus depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed, qui a lui-même joué là-dessus pour s'imposer au sein de la coalition et gagner la primature. Mais il est désormais accusé de n'en faire pas assez pour les droits des Oromos. Dans son université, Aregaï voit clairement la main politique derrière les tensions qui dégénèrent parfois.
Ces injustices historiques sont utilisées par des militants politiques qui font des campus des terrains de jeu et des étudiants des outils de leur propagande.
En novembre dernier, quelques jours après le début des violences, le chef du gouvernement fédéral, Abiy Ahmed, avait évoqué lui-même un agenda politique caché. Un rapport plus récent du ministère blâme des éléments internes et externes dont certains auraient reçu mission de déstabiliser. Dans les jardins de l'ancienne demeure d'Haïlé Sélassié, sur les hauteurs d'Addis Abeba, Hopsa Abdissa porte fièrement la coupe de cheveux afro des Kero, ces jeunes Oromos militants. Assis sur l'herbe du campus universitaire, l'étudiant en troisième année de sciences politiques conteste la version gouvernementale.
Bien sûr qu'il y a des problèmes sur les campus, mais ce n'est pas uniquement une conséquence de la situation politique. Les étudiants ont leurs propres préoccupations, comme la qualité de la nourriture à la cantine, l'éducation en général, ou bien encore quand ils sont victimes de mauvais traitements. Alors oui, ils manifestent pour soulever ces questions.
Hopsa affirme que sur son campus d'Addis Abeba, la violence a d'abord été le fait des forces de l'ordre contre les étudiants qui manifestaient, inquiets de la situation dans d'autres universités du pays.
Ce qui se passe cette année nous inquiète. La mort d'étudiants, Oromos en région Amara. Le fait qu'ils ne soient pas libres de leur mouvement là-bas est une souffrance pour nous. Nous partageons leurs inquiétudes. Quand ils saignent, nous saignons. Et pour nous, le gouvernement essaye de donner une version fausse de l'histoire. Il laisse les forces de l'ordre saccager le campus. Il laisse des gens qui se prétendent étudiants attaquer les autres et ensuite, il dépeigne la situation comme des violences interethniques, ce qui ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Il publie de fausses nouvelles et emprisonne des étudiants. 45 d'entre eux ont passé un mois en prison.
Les autorités fédérales ont effectivement réagi. 640 étudiants, 40 enseignants ont été sanctionnés suite à la vague de violence. Le Premier ministre a menacé de fermer carrément les campus si les choses ne s'amélioraient pas. À Daredawa, Ahmed a constaté que des mesures avaient été prises lorsqu'il est retourné en cours.
Ils ont installé des caméras de surveillance. Il y avait des gens qui entraient dans l'université avec de faux papiers. On dit qu'ils donnaient de l'argent à de vrais étudiants pour leur demander de créer des problèmes. L'administration a donc fait de nouvelles cartes d'étudiants avec un tampon et une photo scannée, ce qui rend plus difficile de les falsifier.
Les mesures répressives ont une limite, selon Atnaf Berhaneh, qui co-dirige l'association Centre pour l'avancement des droits et de la démocratie, organisatrice de la formation à Hambourg.
Je ne pense pas que ces mesures soient suffisantes, ni qu'elles représentent la bonne manière de faire. La punition n'est pas la seule option. Vous pouvez aussi tenter de changer l'attitude de la personne. La punition ne résout rien. Il y en a eu depuis si longtemps et cela n'a pas empêché les conflits d'éclater. Donc ils doivent aller davantage vers les étudiants et organiser de nombreux ateliers de formation pour changer la manière dont les étudiants envisagent leur apprentissage. La punition ne règle rien. Les étudiants sont en colère après l'expulsion de leurs amis qu'ils considèrent comme injuste. Cela mènera à un autre conflit.
Atnaf espère beaucoup des ateliers que son association propose. 4 universités ont accepté de jouer le jeu. Celle d'Ambo a même directement contacté l'association pour qu'elle vienne.
Je peux voir sur leur visage que les étudiants sont fatigués de ces conflits. J'en discutais avec certains d'entre eux du fait que des étudiants ont fui et ne sont pas revenus par peur. Je suis sûr qu'ils reviendront bientôt et que grâce à ces ateliers, les universités travailleront à régler ces conflits avant qu'ils n'arrivent.
Certaines facs ont toutefois laissé traîner le processus administratif de décision quand l'association a proposé ses services, ce qui peut s'interpréter comme un refus implicite. Direction la ville de Vander, au nord, en région Amara. Un autre projet tente de faire de la prévention. Ici, un programme de tutorat a été mis en place depuis un an. 3000 étudiants de première année en bénéficient. Des étudiants venus d'autres régions. L'idée est de leur offrir un espace où ils puissent apprivoiser paisiblement leur nouvelle vie. Membere Enyo est professeur et l'une des responsables du programme.
Nous essayons de soulager les étudiants des tensions ambiantes, qu'ils se sentent détendus. Nous tentons de remplacer leur famille. Certaines choses de chez eux leur manquent, donc s'ils ont une autre famille ici, cela peut les soulager. De se réunir ne serait-ce qu'une fois par semaine, cela les aide à se libérer.
Selon l'enseignante aux 30 années d'expérience, cela fonctionne un peu comme une famille.
Oui, c'est une famille. Par exemple, l'université m'a donné 4 filles et un garçon. Le jour où le conflit est arrivé, je les ai amenés à la maison et ils y sont restés 5 jours. Donc, c'est comme un abri. Ils ont passé 5 jours chez moi, puis sont revenus à l'université. Si ce projet n'avait pas existé, ils auraient dû rentrer chez eux, loin, et peut-être le retour aurait été compliqué. Donc, on peut dire que ce projet fonctionne.
Le problème de fond reste pourtant le fonctionnement de la sphère politique éthiopienne qui déteint sur les campus. C'est l'avis du militant des droits humains Obang Metto.
Depuis qu'Abiy a pris les commandes de l'administration, un espace de liberté s'est ouvert, où les gens peuvent parler librement, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc les ethno-nationalistes utilisent cette opportunité pour faire avancer leur propre agenda. Tout se fait autour de l'ethnie aujourd'hui. Même certains médias défendent leur propre agenda tribal. Donc c'est une explication. L'autre chose est aussi que certaines forces qui considèrent que leur tour est venu, qui défendent cet agenda ethno-nationaliste, ne veulent pas laisser passer cette chance. Ils inciteront donc à la violence et feront en sorte que le changement proposé par Abiy soit un échec. Donc il y a plusieurs composantes. L'ouverture de l'espace d'expression et le fait que les gens prennent conscience d'une liberté nouvelle. Mais aussi le fait que le Premier ministre ne prend pas de mesures concrètes. Il ne montre pas clairement le chemin à suivre.
À l'approche des élections, la situation reste tendue au plan politique. Une réunion publique du parti d'Abiy a été attaquée à la grenade fin février. Des opérations de répression policière contre des opposants Oromo au chef du gouvernement fédéral sont dénoncées par Amnesty International. Dans ce contexte, il y a donc peu de chances que les universités éthiopiennes retrouvent leur calme d'ici août.
Les universités éthiopiennes minées par les tensions ethniques, un grand reportage de Vincent Dublange, réalisation Eva Pieden. Innovation numérique.